binaire, puisque si vous voyez sur Internet, les fichiers Internet à l'écran, on va commencer par quelque chose d'un petit peu spécial. On va voir si ça marche. Je crois que j'ai quitté le programme de connexion, je ne suis pas sûr. Voilà, parfait. Voilà, tu fais tout ça en plein. Et alors, je vous invite à aller sur église-de-sel.be. Tout le monde, tu casses ça en haut, dans la barre, tu fais là. Voilà.
Facile à comprendre pour nous. Par contre, on vit en Europe,
Mais la vision du monde que la Bible nous décrit, c'est bien sûr qu'il y a un monde physique. Voilà. Il y a un monde physique dans lequel on peut bouger, où il y a des lois qui ont été instaurées par Dieu, et qu'il y a un monde spirituel. Il y a le ciel, l'espace, qui fait aussi partie du monde physique, mais on parle des cieux. Des cieux, c'est-à-dire des cieux qu'on ne connaîtrait pas, un monde qu'on ne voit pas. Il y a des cieux là où Dieu réside, mais il y a apparemment aussi un endroit où des puissances résident. Et la Bible ne donne pas beaucoup de détails non plus, donc je ne vais pas inventer les détails pour vous ce matin, mais les détails qu'elle donne, elle donne cette signification du lien à la spirituelle, nous l'avons vu, nous l'avons vécu dans nos vies, hein, pour ceux qui marchent avec Dieu, pour ceux qui ont essayé de changer leur vie, de partir de l'obscurité, vers la lumière, on a vécu ce moment où on a senti une bataille spirituelle. On est parfois attaqué en tant qu'individu ou même en tant qu'église. Ici, prochainement, on a un grand événement en recette, c'est ce 23 juin, c'est pour les fêtes de la Belgique. Et on a constaté que dans l'église, beaucoup étaient découragés, beaucoup étaient abattus, beaucoup avaient difficile. Et c'est pas tellement par rapport aux circonstances, c'était un espèce de climat comme ça qui était sur l'église. Et on sentait vraiment qu'il y a un combat spirituel qui fait place. Parce que si on est découragé, on va avoir moins d'efficacité dans le royaume de Dieu. Alors, il y a souvent deux points qu'on parle de combat spirituel. Hein. On peut analyser souvent les choses, on fait blanc, noir. Il y a des gens qui vont dire que, tout ça c'est un monde de deux, hein. Vous avez des chrétiens qui pourraient dire ça, que c'est pas réel, c'est évidemment une pensée anti-biblique et séculaire. Et puis, à l'autre côté, on va dire que tout est spirituel, mais de voir un démon derrière chaque pensée. Hein, si je ne suis pas réveillé ce matin, c'est à cause d'un démon qui m'a maintenu dans le sommeil. Si j'ai raté mon bus, c'est le démon qui m'a mis en retard. Hein. Non, bien sûr, ça c'est un peu trop loin. On ne doit pas avoir un démon derrière chaque pensée, maladie, circonstance ou objet. C'était quelque chose qui était vraiment courant à l'époque de Jésus. Les gens pensaient que lorsque quelqu'un était malade, c'était une raison spirituelle. Il n'y avait pas les avancées de médecine par lesquelles aujourd'hui, et il pensait que si quelqu'un avait un handicap, il subissait les péchés de ses parents. On peut parfois retrouver ça dans certaines cultures. Et nous-mêmes, parfois, quand on tombe malade, on se pose cette question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme si le Seigneur était responsable de notre maladie. C'est intéressant, ça. Alors, évidemment, la raison pour laquelle on est malade, c'est qu'on vit dans un monde, et les conséquences du péché qui sont là. Ça n'enlève en rien de l'œuvre rédemptrice et de l'esprit guérissant qui est libéré par la croix. Regardons un peu la vision de l'apôtre Paul par rapport au combat spirituel. Il dit ceci dans Éphésiens chapitre 6. Il dit pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Remettez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir été fait, après avoir fait tout ce qui est possible. Eh bien, j'ai envie de vous dire ce matin que souvent l'ennemi va taper là où ça fait mal. Souvent, les attaques spirituelles qu'on va subir, la souffrance spirituelle qu'on va subir, c'est dans la tête. La première chose, c'est le combat dans nos pensées, bien sûr. La guerre fait mal autour de nous. Et la Bible nous donne un peu une espèce de vision du monde un petit peu différente que la guerre qu'on voit à la télévision, dans les médias, il y a les bons, il y a les gentils, et puis il y a les méchants. Et bien, c'est pas ça que la Bible veut. La Bible nous donne que la règle de la guerre fait rage entre nous, mais le courage, le Dieu courageux qu'on sert est entré sur le champ de bataille. Le roi guerrier. La Bible en parle à plusieurs reprises dans cette capacité. Par exemple, dans l'histoire de Josué, on peut voir que Dieu est le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a un être mystérieux qui s'appelle l'ange de l'Éternel, et il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Hein, beaucoup de gens pensent que c'est une Christophanie de Jésus. C'est ça, une Christophanie. Ouais, une typologie de Jésus. Donc c'est Jésus qui est bien marqué, qui est l'agneau du monde avant d'être sacrifié, donc qui marche de l'Éternel apparaît à un homme, et cet homme s'agenouille devant lui, et il ne refuse pas l'adoration. Alors que les autres anges avaient refusé l'adoration, et il suffit juste à servir notre poste, celui-là ne refuse pas l'adoration. Dans Ésaïe 59, il est marqué que ce Dieu, c'est celui qui délivre de sa main. Il voit qu'il n'y a pas. Dans Ésaïe 59, verset 7, il est marqué ceci. Il s'étonne que personne n'intercède, alors son droit lui vient en aide, et la justice lui sert d'appui. Il se remet de la justice comme d'une place, il met sur sa tête le casque du salut, il prend la vengeance pour raison, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau, il rendra à chacun selon ses œuvres, la tuera à ses ennemis, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux vies. Dans les évangiles, ce Dieu-là, les démons tremblent devant lui. Sur la croix, Jésus porte un coup fatal à la mort et à son pouvoir. Dans la révélation, Jésus sait le destin de l'ennemi de l'âme et dans l'Apocalypse, il est présenté comme le roi conquérant sur son cheval avec une épée flamboyante. Alors, ceci n'est pas une version de Jésus comme on peut l'entendre parfois avec Noël, avec le bébé dans la mangeoire. En anglais, il dit toujours Baby Jesus, bébé Jésus. C'est un concept, voilà, c'est Jésus le bébé. Ce n'est pas une version hippie de Jésus qui se promène avec ses disciples, qui se promène avec des voix qui s'aident là. Ce n'est pas le Jésus du film de Hollywood avec des cheveux parfaits et des dents absolument impeccables. Un sourire à la Hollywood. Non, ici, ce Dieu qu'on a présenté dans la vie, c'est un roi conquérant qui ne craint ni l'obscurité ni la mort. Et c'est ça la vérité quand on parle de bataille spirituelle, c'est que on n'est pas seul sur ce champ de bataille-là. Quelle est la réalité sur la bataille spirituelle? C'est que la victoire de Christ est notre victoire. La victoire de Christ est notre victoire. Nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons à partir de sa victoire. Et c'est là toute la différence, parce que si je bats pour la victoire, eh bien, à un moment donné, je n'ai plus avoir de force. Je vais être fatigué. Je vais vouloir arrêter. Par contre, si je me bats à partir de la victoire de Jésus à la croix, et ça change tout à fait le point de vue. Parce que ça dépend plus de moi, en fait. Ça dépend de ce que Jésus a fait. Et si moi je suis faillible, Jésus lui est infaillible. Jésus donne cet appel et dit ceci, endossez l'armure de Dieu à travers l'apôtre Paul. Il ne faut pas tomber dans la peur quand on n'est pas sans défense sur le champ de la table. Moi je sais, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent rentrer dans une certaine peur. Ils disent qu'il ne faut pas trop déranger l'ennemi. Il ne faut pas trop déranger l'ennemi, il ne faut pas trop, attention, ça fait des problèmes. Si tu commences à être beaucoup actif, il faut vivre la vie calmement de chrétien. Oui, j'ai déjà rencontré des chrétiens qui avaient peur, mais avec des peurs, des démons, à ne plus vouloir être actif. Alors, je ne veux pas vous décourager, mais peu importe si tu es actif ou pas, les forces spirituelles vont quand même se faire des problèmes. Ça, je suis désolé. Voilà, donc déjà, on en a déjà fait le temps sur le coup. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est notre attitude devant le combat spirituel. Nous sommes debout avec le roi guerrier qui nous a préparé pour la bataille et la victoire à ses côtés. Quand l'apôtre Paul dit qu'on est appelé plus que vainqueur, c'est intéressant ça. C'est quoi plus que vainqueur? On sait que la victoire, c'était le dernier final, mais on est appelé plus que vainqueur. C'est puissant comme déclaration. Dans les circonstances de la vie, je suis appelé plus que gagnant. Ça devient intéressant. Mais quelle est l'attitude à avoir? La première attitude, c'est tenir debout dans la certitude de notre salut. Tenir debout sur le champ de bataille dans la certitude de notre salut. Verset 14, de tenir donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez la droiture en guise de cuirasse. Alors, je ne sais pas quelle armure vous pensez quand vous lisez ce texte de l'Éphésiens, mais c'est une armure romaine dont je fais référence, et les armures de cuir se portaient en dessous de l'armure. L'armure de cuir se portait en dessous des autres armures, et ça protégeait des attaques contre les organes vitaux. C'est le rôle principal de cette armure. Hein. Parfois, il mettait du métal au-dessus, mais souvent c'était en cuir et ça protégeait contre les attaques des organes vitaux. Et l'évangile, c'est le message qui nous a transformés. La droiture, c'est quoi? Mais nous sommes dans une relation juste avec Dieu. autour de la taille de la vérité contre l'imposture et revêtez-vous donc de la droiture en guise de cuirasse. C'est quoi cette droiture qui est notre cuirasse? L'évangile, c'est le message qui nous a transformés. Nous sommes maintenant justifiés, c'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes justifiés, nos péchés sont pardonnés. Romains 13, 14 nous dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Notre robe de victoire, c'est l'armure de Jésus. C'est à travers ça que nous posons vraiment à lui. Alors lorsque l'ennemi nous accuse de ne pas être combattu, de ne pas faire assez de choses pour Dieu, de se sentir faible, inutile, pour moi être mis sur le côté, on peut se tenir dans la vérité que Christ est notre droiture. C'est ça la vérité. Christ est notre droiture. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances de ma vie, je sais que moi, par rapport à Dieu, eh bien, je suis justifié. Et ça me donne une certaine force qui est absolument infaillible. Parce que, eh bien, si je fais des choses dont je ne suis pas fier, après, si je fais des choses que je regrette, eh bien, j'ai la connaissance et le savoir que je ne suis pas défini par ces choses-là. Ce n'est pas mes erreurs qui me définissent. Ce n'est pas mon mauvais caractère. La fois où j'ai triché, volé, menti, non, c'est Jésus qui est défini. Alors je ne dis pas que je suis là pour excuser tous les mauvais comportements qu'on a, non, parce que Jésus il excuse pas, il pardonne, c'est différent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas défini par les circonstances négatives de notre vie. On n'est pas défini par des parents qui ont voulu nous décourager, par des amis qui nous ont critiqués, par des collègues qui nous veulent du mal. On n'est pas défini par ces choses-là. À la fin, peu importe. Comment la vie peut se retourner contre nous, et il est vrai que parfois on a l'impression que la vie se retourne contre nous, et bien je suis justifié face à Dieu. Et ça programme les organes vitaux spirituels. Je ne peux pas mourir parce que c'est à travers Christ que je suis là. C'est pour ça que c'est important de pouvoir garder cette armure. Est-ce que vous avez déjà rencontré des frères ou des sœurs qui ont enlevé cette armure-là et qui ont commencé à se dire: je ne sais pas si c'est Christ qui est justifié? C'est un mode de pensée qui faillit vite, qui perd vite la route, parce que ça ne tient plus la route en fait. Sans Jésus à la croix, on n'a pas la possibilité d'aller vers Dieu. C'est tellement important. Donc, se tenir debout dans la certitude de notre salut, moi je suis justifié, moi j'appartiens à Dieu. Se tenir debout dans la proclamation de la bonne nouvelle, deuxième chose que je veux bien partager sur le champ de bataille. Il est marqué: ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Alors, les sandales améliorent la mobilité, nous empêchent de glisser et nous apportent de la stabilité. Tu peux être prêt à te tenir au combat, prêt à être disponible pour prêcher ta parole et aller au combat. On est, comme je disais, on est appelé à tenir une position qui est déjà gagnée. Et on doit aussi apporter la lumière dans la bataille contre l'obscurité, en proclamant la bonne nouvelle. Elles sont prêtes à plonger dans la bataille avec nos sandales. Alors, eh bien, il est vrai que les Romains étaient très connus lorsqu'ils ont construit les routes. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit les routes? Enfin, les Romains, à leur époque, ils ont construit les routes dans toute l'Europe, eh bien, parce que ça leur permettait de déplacer leurs armées rapidement, mais surtout que leur armée était capable de se battre après déplacement. Ils pouvaient arriver et se battre directement, c'était ce qui a fait d'eux un peuple conquérant à travers leurs routes. Alors moi ça me fait toujours un petit peu rire parce que je vois les routes, on peut encore voir des sites de routes romaines, je ne sais pas si vous avez déjà vu, hein, aujourd'hui. Puis je vois les autres routes qu'on fait, je vois tous les tours dans les routes, je me dis, mais on n'a pas raté quelque chose. Non, je blague. On peut illustrer ça par une image de football, imagine que c'est le nouveau Ronaldo, tu sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le foot, et au lieu de courir sur le terrain, tu t'en vas et tu rentres. Imagine, c'est le prochain Ronaldo, c'est vraiment le grand sportif, c'est le match pour lequel tu t'es préparé toute ta vie, et au moment où c'est le match qui va commencer, tu sors du terrain et tu rentres chez toi. Et bien, c'est un peu la même chose lorsqu'on est habité par ce salut, on est préparé par Dieu, et on se retrouve dans les opportunités de partager sa bonne nouvelle, ne parle même pas d'une programmation publique de l'évangile, mais juste d'être un témoignage autour de nous. Dieu nous a préparé
et eh bien, on s'en va. Moi, je me suis beaucoup remis en question après l'évangélisation parce qu'il y a des moments où j'avais des blocages vraiment forts. Peut-être que c'était la timidité, peut-être que c'était autre chose, mais j'avais parfois des moments où je n'osais pas témoigner. Et ça n'allait pas pour moi de vivre une séparation, une dichotomie entre ce que je crois et ce que je fais. Ça me rendait fou, mais ça me dérangeait, ça me demande ce que je crois je veux pouvoir le dire. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour les plans qui sont faits avec Jésus Révolution l'été, parce que je trouve que ça inspire dans la vie des jeunes, les 3-4 jeunes qui sont là, l'opportunité d'être fiers de la foi qu'ils défendent. C'est pas possible quand on est tout seul à l'école de dire qu'on prend Jésus, par contre, quand on est 300-400 dans les rues d'une grande ville européenne, ça met une autre perspective dans notre tête. Et je vois beaucoup de jeunes après qui peuvent juste être fiers de porter l'évangile. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc, quand on voit des gens qui sont brisés par le péché et l'œuvre destructive du péché, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas s'en aller, on va aller vers eux. Quand on voit ce collègue difficile, qui est absolument désagréable, qui parle mal de tout le monde, ce collègue ou cette collègue, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on s'en va? Quand on voit ce frère qui a du mal, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on s'en va? Alors, je ne dis pas qu'il y a certaines personnes qui ont des limites, je prends aux limites, je pense que c'est bien. Mais il y a des moments où Dieu nous appelle à être un ministère envers les personnes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter? Ou est-ce qu'on va continuer? On va se tenir debout et on va leur apporter cet évangile. Je pense que si on est des chrétiens qui puissent être disponibles avec ces chaussures de la bonne nouvelle, et bien ça peut être une protection spirituelle. On est aptes sur le champ de bataille, avec la cuirasse qui garde nos organes vitaux, avec ses ceintures de la vérité de Jésus, et bien sûr avec ses chaussures qui gardent des mobiles, de pouvoir avancer. Si tu avances, les pêches de l'ennemi ne vont pas te toucher. On est parfois devenus tellement bons à pointer le péché dans le monde, et parfois on crie fort, on ne bouge pas. On accuse les gens de mensonges, de vol, de péché, mais est-ce qu'on leur apporte l'évangile? Est-ce qu'on va amener à ce monde pécheur l'évangile? C'est la question que je pose ce matin. Apportons l'évangile aux gens et délivrons-les de l'obscurité. Se tenir debout par la certitude de notre salut, se tenir debout par la proclamation de la bonne nouvelle et se tenir debout par la protection de la foi. Verset 16, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. En toutes circonstances. Alors, le bouclier était conçu pour arrêter les flèches de l'ennemi. Ce n'était pas un petit bouclier dont je parle là, mais ce n'était pas un grand bouclier qui faisait la taille d'une personne. Pour ceux qui ont lu Astérix Obélix, on peut voir les boucliers, ils utilisaient ça pour se mettre en formation de tortue. Hein. Vous avez déjà vu ça? Ou Obélix avait bien tapé? Le bouclier de la foi nous protège en entier. Il nous protège de l'intérieur, de toute tentation, comportement mauvais, doute, désespoir. Et il nous protège aussi de l'extérieur, de la persécution et des faux enseignements. C'est-à-dire que quand l'ennemi vient nous tenter, et que le monde est dur, ce qui arrive parfois, on doit se tenir debout dans la protection de la foi. On doit se tenir debout dans la foi que Dieu est bon, qu'il ne va jamais nous abandonner, qu'il ne change pas la vie, mais qu'il est fidèle et juste. Il nous donnera la victoire, il va justifier les mauvaises choses qui ont été faites. Alors, l'étude a démontré que c'est une étude qui était aux États-Unis, hein. Mais l'étude a démontré que les jeunes quittaient l'église et revenaient lorsqu'ils avaient des enfants. Il y avait un peu la branche comme ça, 18-35 ans, tous les jeunes disparaissaient. Mais l'étude encore plus récente, par exemple dans l'église baptiste aux États-Unis, montre parfois que les jeunes ne revenaient plus. Et après 18 ans. On pourrait paniquer si on étudiait que c'est la génération d'aujourd'hui qui ne veut pas de Dieu. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les résultats que l'Église a n'est pas en relation avec le modèle d'Église qu'on a? Est-ce qu'il y a certaine façon dont vivre notre foi qui va
vacciner les jeunes contre l'Église, les idées vaccinées.
Qu'est-ce que j'entends par là?
Le bouclier de la foi nous protège. Il nous protège contre, comme je disais, les faux enseignements, la persécution extérieure, contre la tentation intérieure.
Mais il nous protège de quoi exactement?
Eh bien, de la peur.
Dans le monde ici, on veut se protéger.
C'est le foie de l'humanité, il veut se protéger.
On cherche le contrôle. Le problème, c'est pour que je puisse exercer un contrôle sur mon environnement, ça peut rendre le monde encore plus dangereux car je dois aller chercher des ressources quelque part.
Il y a un danger, puis vient la peur, puis vient le contrôle. C'est l'histoire de l'humanité.
Alors, qu'est-ce que fait l'homme? L'homme se regroupe en société.
Il établit des lois, des règles pour pouvoir vivre ensemble.
Mais à la fin, cette peur qui nous habite reste un petit peu toujours là.
Je ne suis pas toujours au contrôle des choses, alors peut-être pour nous c'est un peu plus difficile à voir parce qu'on a un toit, on a à manger, on a des choses pour vivre. Mais si vous avez déjà été confronté à des situations stressantes dans votre vie, vous savez que la peur parfois peut venir.
Et alors, souvent l'homme essaie de trouver des solutions à travers la religion.
Les religions humaines sont là pour gagner le contrôle sur le monde qui fait peur. Et parfois, quand on critique, on se trouve un peu mal. Je ne sais pas si vous savez, mais le peuple d'Israël avait toujours cette tendance à vouloir contrôler Dieu. C'est une question de pourquoi est-ce que Dieu s'est présenté en fumée et feu au peuple d'Israël. En fumée et en feu. Est-ce que Dieu a déjà essayé de sculpter de la fumée et du feu?
Déjà, parce qu'il venait d'Égypte, de cette nation absolument polythéiste, qui avait des représentations de Dieu, et qui avait des espèces de contrats avec ces dieux, voilà, si tu veux un enfant, tu vas offrir tel sacrifice à la déesse de la fertilité, si tu veux une bonne récolte, tu vas offrir tel sacrifice à ce dieu-là. Et si tu veux une bonne récolte, n'oublie pas d'aller remercier ce dieu-là. Il y avait une peur constante. Et on voit qu'à travers l'alliance que Dieu fait avec Israël pour la première fois, l'homme pouvait s'éloigner d'une interaction avec Dieu en sachant qu'il était en paix.
Dans la notion des sacrifices, dans les sacrifices qui sont instaurés à l'époque de Moïse, eh bien, Dieu donne tout un système en place où l'homme peut se dire « Ok, si j'ai fait quelque chose, je peux faire ça, et puis Dieu est mon équipe. » C'est intéressant. Pour la première fois, l'homme ne devait plus avoir peur. Alors, Israël a un petit peu du mal à comprendre cela, ça fait des siècles. Il reste dans cette relation assez commerciale avec Dieu. Écoute, tu nous donnes ça, on te donne ça. On fera ce que Dieu donne. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut faire? Moi, je ne pense pas.
Dans notre christianisme, parfois, on a été influencé par cette façon de contrôler les choses. On essaie de contrôler, et je pense qu'on doit faire attention de ne pas vivre notre vie de cette façon-là.
Pourrons-nous le dire pour la génération qui vient?
Un exemple que je veux donner, c'est par exemple la vie en dessous de Dieu. Je contrôle Dieu à travers une vie morale ou à travers des rituels. Imaginons,
on est enseigné, voilà ce que tel comportement, tel comportement, tel comportement, et vient Dieu de l'Église.
Et puis, on fait ces comportements-là, on les suit à la lettre, et puis je ne me sens pas béni.
Ça se rend énorme.
Vous avez déjà vu les vidéos sur l'évangile de la prospérité, j'imagine. Hein, c'est une hérésie où on a pris cette réalité de Dieu pour moi, et on l'a grossi au-dessus de tout, là où le reste n'a plus tellement d'importance. Et on dit aux gens, voilà, si tu veux être béni, eh bien, donne-moi 1000 euros, et Dieu te bénira. C'est possible de faire de l'évangélisme comme ça. Hein. Peut-être une impression à avoir, parce qu'elle, hein.
Mais, eh bien, oui, il y a des gens qui essaient de contrôler un peu leur monde en disant, voilà, si je mène une vie dure, eh bien, il ne m'arrivera rien.
Mais c'est pas ça la vérité de l'évangile. Il n'y a pas de supervision chrétienne à ce niveau-là. Parce que là, ça se transforme Dieu comme un grand marionnettiste à travers le contrôle de Dieu, contrôle un peu le monde. Et si on enseignait ça aux gens, si on dit ça, il va se passer des choses, on arrive à être très discipliné et on se sent un petit peu plus sain que tout le monde. Soit, eh bien, on ne pourra pas suivre ces règles, on va juste dire que la foi, c'est pas pour moi. Mais une autre façon dont on essaie de contrôler Dieu, c'est de préférer notre monde à la place de celui de Dieu. Eh bien, ça, c'est la vie au-dessus. tout ce que je fais, tous mes. Tout... C'est en fait que la science nous permet de montrer au monde, alors on peut couper Dieu de l'équation. On prend le contrôle à travers la science et la technologie. La forme la plus extrême de cette vision du monde, c'est l'athéisme. Mais il y a une version chrétienne de cela. On pourrait dire, tu sais, la raison que la Bible va pas, c'est parce que tu prends pas tes repères dans la Bible. La Bible peut te donner le contrôle sur le monde. Et parfois, on enseigne aux gens que, d'abord, on dit aux gens d'avoir plus une relation avec la Bible plutôt qu'avoir une relation avec Dieu. Ça arrive. J'enseigne que vous cherchez les Écritures pour trouver la vie et vous ne le trouvez pas. C'est vraiment le problème des pharisiens. J'ai suivi les instructions de la Bible et pourtant les choses vont toujours mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que j'ai dit, c'est déguisé aux chrétiens. La loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. C'est une relation vivante. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec Dieu est basée sur une intimité d'amour. Elle n'est pas dans une relation commerciale, dans une relation d'échange. Non, c'est pas aussi une relation d'échange, mais c'est pas commercial, c'est sincère. Et quand je vais devant Dieu, je l'ai avec sincérité. Donc la vie avec Dieu au-dessus qui contrôle les ficelles, la vie avec Dieu en dessous où je suis au-dessus de lui, il y a une autre chose qu'on fait, c'est Dieu au service de ma vie. J'aime bien voir que parfois on considère Dieu comme. Une machine à bonbons cosmique. Une machine à bonbons. Seigneur, je veux une voiture. Je veux une nouvelle voiture. Seigneur, je veux un nouveau téléphone. L'essence de la vie, parfois, ce sont des désirs non satisfaits. Et on va dire à toutes les choses de ce monde sont là pour satisfaire les besoins. Et c'est vrai que Dieu est là pour pouvoir le besoin, mais ça ne veut pas dire que c'est le majordome céleste. C'est très important. Le problème, c'est que, on va se voir dans ce but-là, on entre dans une espèce de consumérisme. Dieu est seulement la personne qui satisfait mes besoins, c'est mon thérapeute, mon majordome. Que quand quelque chose demande à Dieu, ça se transforme en Dieu à la machine à 5. Alors, Dieu a fait une des choses, ou alors quand on est déçu, et bien on arrête de suivre Dieu, parce qu'il ne donne plus rien. Et la raison pour laquelle on est perdu dans cette relation avec Dieu, c'est parce qu'il donne des choses. Mais la relation avec Jésus est beaucoup plus profonde que ça. Oui, Dieu a pour pouvoir à 100%. Il a pour pouvoir tous les jours de la vie comme Pascal l'a dit. Il va nous permettre d'agir avec justice. Moi, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans une situation financière très difficile. Il travaillait au noir. Il se sentait condamné par ça. Et il a pu les circonstances de sa vie changer pour lui permettre de vivre une vie juste. Alors moi je ne pense pas que voilà, il faut, c'est si terrible, les gens qui travaillent noir, on fait un peu. Mais je pense que Dieu nous appelle à vivre une vie sainte. C'est une vie juste. Puis il nous donne cette opportunité. Pourquoi vivre un peu en biais si je veux vivre simplement? Je ne suis pas plus catholique que le Père, je le dis. Mais je pense que Dieu nous permet de vivre justement et il nous donne les moyens pour le faire. C'est souvent plus difficile d'agir simplement quand tu dois nourrir ta famille, par exemple. C'est vrai, non? J'ai rencontré des gens qui étaient dans une situation désespérante et qui ont volé. C'est plus difficile d'agir avec sainteté quand tu n'as rien. Mais je pense que Dieu peut nous en donner la il peut changer les circonstances. J'en suis où? Ah, Dieu a un génétac. Alors, un dernier truc que j'ai parfois dit, vu dans notre façon de vivre notre foi, c'est, on peut dire parfois aux jeunes ou aux jeunes même, ma vie au service de Dieu. Ma vie au service de Dieu. On va dire à un jeune, si tu veux contrôler le monde, tu dois faire plus de choses pour Dieu. Tu dois servir. Le plus que tu arrives à faire pour Dieu, au mieux tu peux te sentir par rapport à ta place dans le monde. Se sent très fort chez les enfants de pasteurs ou missionnaires. Comment est-ce que Dieu te voit dans ton péché? La réponse de Genèse souvent, Dieu est déçu avec moi, ou que de l'élu par rapport à cela ou ceci. Eh bien, moi j'aimerais qu'on sache qu'au milieu de notre péché, au milieu de notre non-activité, Dieu nous aime. La raison pour laquelle on sert Dieu, c'est pas parce qu'on doit servir, parce qu'on a envie de servir. C'est parce que ses désirs deviennent nos désirs. Et évidemment, c'est pas une question d'être devant Dieu, parce
partir, on se rend compte que nos désirs ne sont pas toujours en correspondance avec les siens. Mais si on est fait à sa volonté et être influencé par lui, il est fidèle et peut transformer notre cœur et nous influencer d'une bonne manière. Ce n'est pas de la manipulation, c'est l'amour. Si vous avez déjà eu de la compassion pour les gens, de façon un peu surnaturelle, moi, je connais un homme qui s'appelle Carlo, il est ancien à Rosset, il n'avait pas les enfants. Alors, un truc qu'il n'avait pas. Il fallait pas lui demander de faire une liste, il fallait envoyer avec Jésus, moi jamais. C'était le premier année des vies chrétiennes. Je n'ai jamais vu un homme avec autant d'amour que Carlo avec les enfants. Il aurait dit des pièces de théâtre phénoménales, il s'est développé, réalisé. C'est intéressant, cet homme, moi, moi jamais les enfants, j'aime pas ça. Dieu est capable de transformer le cœur, de faire ressortir la vraie valeur de ces deux cœurs. Le cirque infernal, le danger à prendre le contrôle. C'est excellent de servir Dieu, mais ce n'est pas le centre de notre vie. C'est bizarre ce que je dis là. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on ne doit pas tomber dans un activisme chrétien. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire parce que c'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'on a envie aussi. Alors, en tant qu'on sert, il n'a plus force. Dieu, il est OK qu'on s'arrête pour se reposer. Dieu lui-même se reposer. C'est marqué au début de la Bible. Dieu, il s'est reposé 7 jours. Jésus, il a dormi dans la tempête. Et Daniel, dans une cage, le temps avec des lions. La morale de cette histoire, c'est qu'on peut toujours prendre les siècles. C'est ça. Alors, c'est excellent de servir Dieu, mais il ne faut pas accéder au centre de la vie. Parce qu'on n'a plus d'énergie, alors on va sortir de l'église, on va sortir de l'idée. Il y a la vie en dessous de Dieu et il y a la vie au-dessus de Dieu. Dieu au service de la vie au service de Dieu. Si c'est Dieu, on a vu beaucoup de trucs. Hein. Mais c'est quoi l'essence de la vie chrétienne? L'essence de la vie chrétienne, c'est la vie avec Dieu. Pas pour lui, pas contre lui, pas lui au-dessus de moi, pas lui au-dessus de moi. C'est la vie avec lui, c'est une relation d'intimité. Et le bouclier de la foi, à ce moment-là, il prend toute sa valeur. Parce que les circonstances de la vie, elles vont tout à fait changer, tout le temps. Mais Dieu, lui, ne change pas. Donc je peux m'accrocher à lui, et sentir qu'il est fidèle. À savoir que même si j'ai raté cette opportunité, même si je n'ai pas témoigné à cette personne-là, même si je n'ai pas été là, même si je n'ai pas été la meilleure personne que je devrais être, c'est Dieu fidèle. Il y a la foi. Alors parfois, j'entends des enseignements qui me font un peu peur. Parce que je les trouve pas vrais. Voilà, je trouve des enseignements où les gens vivent des choses difficiles dans leur vie et puis entendent une théologie. Et alors, je me rappelle très bien un jeune dont je ne cite pas le nom, qui s'appelle Francesco, qui avait en ayant écouté un message, et ce message faisait un petit peu peur. Et c'est marrant parce que je lui pose une question et il dit juste: ouais, moi je suis pas trop ces choses-là, mais ce que je sais, c'est que Dieu il est là. Et il a commencé à me dire deux, trois fois que c'était vraiment le bouclier de la foi. Ses enseignants auraient pu interroger des choses en lui, moi je l'ai vu, franchement, il avait le bouclier de sa foi, il savait qui Dieu était, et il savait poser les choses. Alors j'aime bien ça. On ne citera pas son nom, hein, ça restera entre nous. Le bouclier de la foi, c'est, je crois que c'est mon bouclier préféré. Se tenir debout dans la parole de Dieu. Ça, c'est mon dernier point. On a parlé de se tenir debout dans la certitude de notre salut, je parle dans un. Vous savez, c'est quoi, on va frapper la dernière fois. Hein. Se tenir debout dans la certitude de notre salut, se tenir debout dans la proclamation de la bonne nouvelle, se tenir debout dans la protection de la foi, et enfin se tenir debout dans la parole de Dieu. Prenez le salut pour Christ et l'effet d'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le Christ est un projet puissant, mais c'était aussi un élément décoratif dans l'armée romaine. C'est indiquer à qui l'armée qui appartenait. Sur ton gaspille, hein, qui est Dieu. Sur le sien. Le salut nous protège et nous montre qui nous sommes, des hommes et des femmes, fils et filles, je crois qu'il y a. Je vous demande toujours ça, mais tu peux tourner à ton voisin et dire: moi, je suis famille royale. Tourner la main, je suis la belle majesté. L'épée, c'est la seule arme pour la défense et l'attaque. C'est la parole de Dieu. Ça persuade les défenses des gens. À travers leur conscience, elle les réveille. Lorsque l'on a marre de la volonté de l'ennemi, j'ai peur que l'on en a marre. On peut se tenir dans la parole de Dieu, on peut la lire, on peut la consumer, on peut l'étudier, on peut en parler ensemble. C'est la parole de Dieu qui est vraiment un cadeau pour nous, où Dieu se révèle à travers nous. C'est la vérité qui nous aide bien sur les choses autour de nous. Il faut se tenir dans la parole et se rappeler les uns aux autres que la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Donc je lis ma Bible, j'ai une révélation sur qui Jésus est, je grandis en connaissance et en intimité avec lui, et lui, ses paroles. Même si ma Bible est rassurante devant ses paroles, elle continue à marcher avec moi. Parce que Jésus vit dans le cœur de la Saint-Esprit. Et ses paroles, elles sont vivantes. C'est pas juste j'ai lu le texte, que j'ai compris, que ça a béni, mais ses paroles, elles me travaillent constamment. Elle est pertinente aux circonstances de ma vie. Je lis quelque chose, et le Saint-Esprit travaille dans mon cœur, dans mon âme, et ça tourne, c'est vivant, et ça respire, et c'est Jésus. Conclusion. Notre attitude. Dans le combat spirituel, ça fait beaucoup de choses. Moi, je trouve que les pêches sont massives. Il pleut, ben oui, il pleut, voilà, c'est tout, il pleut. Ah, je subis des attaques, et on ne fait rien. Moi, je pense qu'on doit se lever dans les attaques. On ne doit pas se laisser dans le dire non, c'est pas possible. Parce que je vois sur la vie de ces personnes, moi, je dis non, dans le nom de Jésus. Je ne veux pas ces choses-là. Cette division, ces conflits, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans mon proche, j'en veux pas, je ne laisse pas manipuler par l'ennemi. Et souvent, on est un petit peu passif face à ces choses-là, on les subit. Et je ne veux pas tout spiritualiser, je ne veux pas dire que toutes les choses dans ma vie, ça vient d'ennemi. Mais même si ce ne sont que des états d'esprit inspirés par des pensées qui ont été suggérées, je veux les refuser. Je pense qu'il y a des gens, en vrai j'ai compris quelque chose, je l'ai dit à deux, trois personnes, ça a transformé leur manière de penser, j'aurais dit, tu sais que tu n'es pas tout ce que tu penses. Tu sais que tu n'es pas tout ce que tu penses. Surtout avec les jeunes. Tu sais que tu n'es pas tout ce que tu penses. Alors, ils se culpabilisaient parce qu'ils pensaient parfois des trucs vraiment bizarres. Tu sais, tu n'es pas défini par tout ce que tu penses. Tu sais, tu n'es pas défini par tout ce que tu ressens. Tout ce que tu sens en toi. Toutes les envies, toutes les pulsions. Tu sais, tu n'es pas défini par tout ce que tu fais. Tu es défini par Jésus. Alors, notre roi qui n'est pas resté sur son trône, mais qui est parti sur le champ de bataille à l'avant, quand nous, on va sur le champ de bataille, on n'est pas sans peur. On n'est pas, mais on n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on voit Jésus avec son épée. Qu'est-ce qu'on y va? On y est, on y va ensemble. Amen. Amen. On va prier. On va Seigneur devant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire vraiment. Seigneur, c'est vraiment ce roi béni, ce roi qui est sur ce champ de bataille spirituel, sur cette image qui vraiment nous enseigne qu'il y avait une guerre spirituelle. Et tu l'as gagné pour nous, Jésus. Et Seigneur, je ne connais pas les circonstances de toutes les vies ici, Jésus, mais je sais que tu es grand, tu es puissant, et tu veux agir. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas être des gens passifs, des chrétiens passifs, mais des chrétiens qui sont aux aguets, qui sont prêts, qui sont conscients qu'il y a des choses spirituelles autour d'eux. Seigneur, viens nous aider à vivre dans cette identité que tu nous donnes, qu'on puisse se tenir debout dans la certitude que tu nous as sauvés, que tu nous as justifiés, Jésus. Qu'il n'y ait pas de doute en nous, que même si les choses deviennent terribles dans nos vies, eh bien on peut juste se dire, ok, moi je suis justifié par Dieu. Et c'est pas ce que je pense que ça peut lui définir, c'est lui. Seigneur, aide-nous pour nous tenir debout dans la proclamation de la bonne nouvelle. Si on voit des gens dans l'obscurité, on puisse être sensible, Seigneur, à voir au-delà des actions de ces gens-là. Surtout avec les gens méchants, Seigneur. Qu'on puisse voir les blessures qui ont été faites. Qu'on puisse voir les coups que leur âme prise, Seigneur, à cause du péché. Viens nous aider à considérer les gens, Seigneur, avec tes yeux. Qu'on puisse être des ministères marchands sur terre, Seigneur, ton royaume qui marche partout.
Seigneur, aide-nous à nous tenir dans la profession de notre foi. Quand Dieu passe son Seigneur, dans un activisme chrétien, qu'on pense que tu es là pour répondre à juste tous nos besoins et qu'on puisse vivre cette relation vivante et intime avec toi. On te connaît tellement bien, Jésus, que, eh bien, lorsqu'on entend des choses fausses, ou est-ce qu'on entend des choses décourageantes, ou est-ce qu'on est tenté, eh bien, notre foi est basée sur toi, notre confiance est établie en toi, Jésus. On veut se tenir debout dans cette protection de la foi en qui tu es. Seigneur, on a envie de se tenir debout dans ta parole, en toi, Jésus, dans cette relation intime qu'on a avec toi. Merci parce que t'es un Dieu vivant, parce que t'es pas mort. Parce que quand on lit des choses dans ta parole, Jésus, dans la Bible, bien ça vient habiter, ça vient vivre dans nos cœurs. Aide-nous à prendre des moments d'intimité avec toi. Mon Dieu, on est juste dans ta présence, Seigneur. Parce que c'est là qu'on peut enfin respirer. Seigneur, aide-nous à pouvoir croquer la vie pleinement, Jésus. À vraiment pouvoir vivre une vie pleine de toi. Une vie heureuse. Qu'on puisse être épanoui comme toi tu as voulu qu'on soit épanoui quand tu nous as créés. Qu'on ne soit pas accablé par cette peur qui habite, Seigneur, chaque humain sur terre. Mais que ce soit remplacé par vraiment cette conviction que tu es la chose qui nous aide à vivre une vie menée par l'essentiel. Seigneur, la vie peut être tellement futile si elle est vécue sans toi. Alors on sait qu'avec toi, notre vie sera futile. Parce que tu es au centre de celle-ci. Tu bénis chaque personne ce matin, Seigneur, tu nous fais du bien à tous. Tu bénis une circonstance particulière et au nom de Jésus, je veux briser toute attaque de l'ennemi sur cette église. Toute attaque de l'ennemi sur la vie de chaque individu ici, a bien compris. Sur les divisions, sur les frustrations, sur les états d'esprit qui éloignent les phases vers les uns des autres. Seigneur, viens nous aider à vivre en harmonie les uns avec les autres, parce que toi tu es un. Alors viens nous aider à pouvoir vivre cet amour d'une façon puissante. Et là, c'est des gens qui sont accablés, qui reçoivent des coups. Et bien, au nom de Jésus, je veux chasser tout plan référé de l'ennemi pour décourager, pour affaiblir, pour tuer. Pour la puissance de Jésus dans ce lieu et dans chacune de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, notre roi guerrier. Amen.